Le débat africain. Alain Foucault.
Lorsqu'on parle d'elle dans les médias, c'est presque toujours pour évoquer les tragédies, les drames et les violences dont elle est malheureusement trop souvent le théâtre. Les viols, les enlèvements, les massacres perpétrés par des bandes armées, par des groupes rebelles sur les populations pour tenir l'immense richesse dont son sous-sol regorge. Comme en 2002 où elle avait failli disparaître de la carte du monde après l'éruption du volcan Nyiragongo qui la surplombe, elle a de nouveau été frappée, il y a quelques semaines seulement, par cette force de la nature qui a de nouveau craché le feu et fait couler des laves incandescentes jusqu'à la porte de la ville, brûlant tout sur son passage. Maisons, câbles électriques, adduction d'eau, mais surtout entraînant de nouveaux gros déplacements des populations. C'est vrai, la petite cité de Goma dans l'est de la République du Congo, depuis bientôt 2 mois sous état de siège pour combattre les groupes armés qui terrorisent certaines parties de la région, n'aura pas été vraiment vernie côté image, et cela depuis longtemps. Pourtant, lorsqu'on atterrit ici, depuis que l'aéroport partiellement touché par les laves du volcan a été rouvert, on ne peut que s'interroger sur la résilience de ces habitants qui reconstruisent à grande vitesse, qui ont repris leurs activités, comme si de rien n'était. Des populations passablement agacées par le traitement, par les images que les médias internationaux véhiculent de leur ville. Et si pour une fois, on leur donnait la parole, et si pour une fois, sans les oublier, sans les minimiser, on laissait les traditionnels drames qui nourrissent nos journaux pour écouter les gomatraciens, c'est comme ça qu'on les appelle, les gomatraciens parler de leur ville, parler d'économie. Et si on écoutait une fois, n'est pas coutume, leur narratif à eux. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, sur la rive nord du beau lac Kivu, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à 1500 mètres d'altitude dans la vallée du Rift. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités, plusieurs amoureux de cette ville cosmopolite à la frontière du Rwanda. D'abord, Madame Mwanza Mwamba Yvette, présidente du comité professionnel des mines au sein de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo du Nord Kivu. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Alain Foucault.
Merci d'être là. Merci. Notre second invité est monsieur Mwanza Amissi Singoma, directeur général du groupe Chenimed, qui est dans l'agro-industrie, la distribution, l'énergie et bien d'autres secteurs. On ne va pas tous les citer ici. Monsieur Mwanza Singoma est également député national du Nyiragongo, c'est-à-dire là où se trouve le volcan. Bonjour monsieur Mwanza Singoma.
Oui, bonjour.
On dit généralement honorable ici quand on est député.
Honorable, oui.
Voilà. Notre troisième invité est monsieur John Kanyoni Sana, très connu, PCA de Metachem, président du conseil d'administration Metachem, dans les mines, DG de Tembo Power et administrateur de Trade Power qui opère dans le domaine de l'énergie. On ne va citer que cela parce que vous avez beaucoup de casquettes également. Bonjour monsieur John Kanyoni.
Bonjour monsieur Foucault.
Alors, j'ai compris que vous avez tendance à fermer les radios et les télévisions lorsqu'on parle de Goma. Avez-vous le sentiment que vous êtes malmené, honorable Mwanza?
Oui, je pense que oui. Personnellement, enfin moi qui vis ici, qui ai eu la chance d'avoir mon domicile, mes activités à Goma, j'ai toujours été d'abord un amoureux de cette ville. Et c'est vrai que parfois, souvent quand je regarde un peu sur les médias internationaux, qu'est-ce qui se dit sur la ville de Goma, la province du Nord Kivu? Oui, il y a certaines réalités qui sont vraies. C'est vrai,
on ne peut pas les nier quand même.
On ne peut pas les nier, c'est vrai.
Ici, on le reconnaît. Il se passe beaucoup de drames ici.
On le reconnaît, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je dirais cette ville, comme vous le dites, est au pied du Nyiragongo, hein, qui est le volcan qui est en éruption. Mais ce volcan, en fait, reflète aussi, je dirais, la dynamique de cette ville de Goma. C'est-à-dire, c'est la résilience, c'est la reconstruction après les tragédies. Et c'est un optimisme des habitants de la ville de Goma.
Mais certains ont envie de dire, mais pourquoi on ne déplace pas cette ville? Placer une ville au pied d'une montagne qui peut couler, qui peut partir, qui peut se mettre en éruption à tout moment. Est-ce que c'est une ville viable?
Bon, écoutez, je ne minimiserai pas le risque. Je dirais, oui, c'est vrai que le risque sismique et d'éruption est un risque réel. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais aujourd'hui, Goma, dans sa configuration, c'est-à-dire même géographiquement, on est, comme vous le dites, proche du Rwanda. On a, dans le Nord Kivu...
La frontière est à quelques mètres d'ici.
Est à quelques mètres. On a, je dirais, on a l'accès par le lac assez facilement sur le sud Kivu. Et d'autres territoires de la province dépendent de nous pour leurs transactions avec les pays voisins. Donc c'est quand même la position géographique de Goma est importante pour l'économie, je dirais, du Nord Kivu et même pour les personnes qui y vivent. La déplacer, oui, c'est une question
qui... C'est quand même envisageable, si on doit la déplacer, parce qu'il y a des montagnes de l'autre côté.
Tout à fait.
Il y a de l'espace de l'autre côté, non?
D'accord, mais il faudrait, je pense aussi tenir compte enfin de ce qui s'est développé ici à Goma, qui est justement une sorte de je dirais de cosmopolitisme, enfin qui est
le cosmopolitisme forcé quand même, parce que lorsqu'on arrive ici, c'est vrai que c'est très mélangé, mais c'est le résultat de plusieurs accidents, de plusieurs tragédies. Je pense au génocide de 1994, où une ville qui était faite pour 150 000 habitants s'est retrouvée avec 2 millions de personnes qui sont entrées ici, pour ne parler que de cela. C'est une ville accident, non ?
Tout à fait. Tout à fait.
John Gagnoni ?
Effectivement, depuis les génocides des Tutsis au Rwanda, la situation a été dramatique ici, dans notre province. Ce qui fait qu'une ville qui était toute petite, qui était une ville, comme on dit, au bord du lac Kivu, on dit toujours, d'ailleurs, pour sourire, on n'est pas certes en Suisse au bord du lac Léman, mais on n'en vit pas pour autant les Suisses.
C'est vrai que c'est très beau.
C'est très, très beau. Mais c'est une ville aussi, quand même, qui a une histoire un peu glorieuse en termes de culture d'entrepreneuriat, mais surtout en termes de résilience. Vous l'avez bien soulevé, on a connu une histoire très difficile depuis les 20 dernières années, mais nous sommes résilients. On est tout le temps debout.
Mais on se dit, pourquoi ils ne se déplacent pas ? Parce que lorsque on a été ici en 2002, la ville était rasée quasiment. On imaginait Goma disparaître. Et là, lorsqu'on arrive, on a conçu au même endroit de nouveaux bâtiments et les gens vivent comme si de rien n'était, oubliant très souvent qu'il y a un volcan juste à côté qui ne dit pas quand il va se réveiller.
Des nouveaux bâtiments plus beaux qu'avant, comme l'hôtel où on est. Non, on pense effectivement qu'il faut anticiper, qu'il faut peut-être voir un peu comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir la ville vers des espaces qui sont plus vastes, peut-être vers les territoires des Massissi. Et là, il y a une possibilité d'anticiper et de voir un peu comment est-ce qu'on peut planifier. Il est vrai aussi que la tendance démographique, elle est de plus en plus galopante. C'est quelque chose qu'on peut considérer.
Ben oui, quand même. Et en plus de ça, il y a des populations qui fuient l'insécurité dans les villes voisines, dans les campagnes. Est-ce que ce n'est pas un élément qui fait que, bon, c'est difficile de dire du bien de Goma quand on pense à tout ce qui se fait. Vous qui êtes une femme, vous ne pouvez pas dire que cette insécurité ne vous fait pas peur.
Bon, c'est vrai que l'insécurité fait peur quelque part, mais vous savez, quand on a de l'espoir, on ne peut pas se décourager. Comme même le président Moïse l'a dit, les populations de Goma ont développé ces capacités-là de résister aux problèmes. Ils ont développé une résistance et une sorte de résilience et qui étonne le monde aussi. Les gens ne comprennent pas pourquoi les gens ne quittent pas Goma. Et c'est parce
en tout cas, moi-même, je me suis interrogé. Hein, c'est vrai que c'est très beau. Mais on se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas se déplacer un peu ? On est allé visiter les laves, on voit les dégâts qu'elles ont causés sur leur parcours. On voit un village qui est menacé. Et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer légèrement cette ville quand même ?
Bon, il y a certains sites quand même qui constituent des risques, qui sont vraiment plus exposés au volcan, mais pas tous. Il y a des quartiers qui sont vraiment épargnés en cas d'éruption. Et il faut aussi suivre les différentes fissures qui ont été déterminés par l'observatoire.
Oui, mais là, vous n'aviez pas la fissure, là. Il y a quelques semaines, on ne savait pas où ça allait démarrer.
Justement, il faut essayer de suivre un peu les observations aussi de l'observatoire volcanologique de Goma. Mais je pense qu'envisager le déplacement de la ville, il faut vraiment un bon plan d'aménagement. Parce qu'il faut comprendre que la région de Massissi, par exemple, c'est une région qui est très fertile. Où il y a
ça travaille l'agriculture de ce côté-là.
Et les populations sont très actives dans l'agriculture, l'élevage, en plus de mines.
Dans les mines
donc,
également.
Il y a une densité assez élevée des populations au kilomètre carré dans le territoire de Massissi et dans le territoire de Rutshuru. Donc il faut éviter de créer un autre problème en cherchant à déplacer la ville. S'il faut envisager vraiment, il faut un plan d'aménagement qui tienne compte non seulement de la densité dans les territoires voisins, mais aussi des activités. Parce qu'il y a des terres arables. Vous ne pouvez pas, par exemple, déplacer une ville pour
aller
la délocaliser dans une ferme privée.
Tout à fait. Surtout que la question foncière ici, elle est très délicate. On ne s'abuse pas avec les terres ici.
Je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes, mais aussi avoir la capacité de gérer, de vivre avec le volcan. On peut vivre avec le volcan. Si on a un bon plan de contingence, il faut vraiment faire appel aussi.
J'ai l'impression d'entendre les Japonais qui disent que Tokyo, on vit bien avec
justement, je voulais justement évoquer l'exemple du Japon. C'est un pays volcanique, il est sur la ceinture de feu, mais ils arrivent à vivre avec. Donc on doit développer ces capacités de vivre avec...
Mais moi j'ai envie de comprendre, et là je m'adresse au député national, On sait que cette ville a subi une pression démographique extraordinaire. Au-delà du taux de natalité qui est quand même important, il y a eu des déplacements des populations, il y a eu de l'insécurité. Est-ce qu'on peut arriver à résorber ça? Est-ce que une ville peut supporter de passer de 150 000 habitants à 2 150 000 en si peu de temps?
Bon, c'est clair que ce sont des défis. Une ville qui connaît une expansion si rapide, bien sûr, a créé, je dirais, des cohabitations entre les communautés qui, bon, parfois, qui sont un peu problématiques. Mais je pense qu'à long terme, ce qu'on peut envisager, c'est pas nécessairement que Goma devienne une grande ville de 5 millions d'habitants. Non, c'est pas intéressant pour le Nord Kivu. Les territoires voisins qui sont à Rutshuru, Masisi, ont aussi des endroits viables où des villes de moyenne taille peuvent se développer. Ici, je cite Kiwanja dans le Rutshuru, qui actuellement déjà une population, je pense, de plus de 100 000 habitants. Ils ont déjà l'électricité. Ils sont pas loin de Goma. C'est à 2 heures de route d'ici.
75
kilomètres. Donc, ça, c'est des villes.
Oui, quand on dit 75 kilomètres avec les routes qu'il y a ici, c'est minimum 2 heures. Hein.
Mais pour celle-là, ça va.
Dantesque.
Voilà, donc ce seraient des villes comme celle-là. De taille, je dirais, assez petite, qui devrait maintenant recevoir plus, je dirais, d'investissements en matière de planification de, disons, de ces villes, infrastructures, pour qu'elles puissent justement empêcher que trop de gens ne viennent sur Goma. Et même chose pour le Masisi. Maintenant, il y a des discussions qui se font actuellement au niveau de l'État congolais, notamment sur l'installation d'un saké, c'est-à-dire sur la route de Masisi. On veut créer, je dirais, en tout cas, une agglomération mieux urbanisée. Sur Saké.
Une ville nouvelle. En
une gros. Ville nouvelle, tout à fait. Mm-hmm. Et je pense que dans la dynamique qu'il y a dans la ville de Goma, notamment avec tout ce qu'on a comme possibilité d'accès à l'électricité, etc., ça permettra en tout cas un aménagement de ces villes comme Saké et Kiwanja qui pourraient atténuer cette venue des personnes sur la ville de Goma.
Cette arrivée massive. Vous aviez envie de dire quelque chose, John?
Je voudrais bien préciser quelque chose. Vous savez, nous sommes dans une ville qui a toute une histoire. Nous sommes pratiquement à la fin des années Mobutu. On décide de voir comment est-ce qu'on peut faire l'expérience d'une province qu'on va, comme on dit, subdiviser. On commence par la grande province du Kivu, qui se subdivise en trois provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Chez nous, au Nord Kivu, c'est Goma qui est naturellement le chef-lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une culture de commerce, de dynamisme, d'entrepreneuriat qui était déjà affichée ici depuis plusieurs années. Nous avons été les greniers pratiquement de la République du Congo. Le Nord Kivu particulièrement. Nous avons ici une culture aussi, par exemple, des produits phares, les cacao, les cafés, les thés. C'est des choses qui ont existé depuis longtemps. Et les centres de tout ça, c'était Goma. Je vais rajouter deux éléments essentiels. La proximité, par exemple, avec la ville frontière de Gisenyi. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, les flux avant Covid entre Gisenyi et Goma ont parlé de 50 000 personnes
par jour.
Tout à fait.
La frontière, la petite frontière, qui est la deuxième frontière au monde, la plus fréquentée après le Mexique.
Et la première en Afrique.
Et la première en Afrique.
Donc, c'est pour vous dire déjà que tout ça, c'est des éléments qui sont, comme on dit, déterminants pour les petits commerces entre les deux pays. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'East African Community. Le président de la République l'a relevé dernièrement. Donc, Goma va jouer encore un rôle essentiel et va se développer davantage. On parle des éclaves aujourd'hui. Donc, c'est une ville qui va jouer un rôle déterminant en République démocratique du Congo.
Oui, mais est-ce qu'on peut jouer un rôle déterminant en République démocratique du Congo avec cette insécurité, avec ces bandes armées? Je veux bien qu'on ait lancé l'état de siège, puisqu'on vit dedans aujourd'hui et qu'on ne peut pas rentrer après 20 heures à la maison. Est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce qu'on peut espérer que ça va marcher?
Ouais, Madame Mwanza. Les nouveaux investissements, ce sont des signaux pour montrer qu'il y a de l'espoir pour le Nord Kivu et pour la ville de Goma.
Oui, mais je veux qu'il y ait de l'espoir, mais oui, comment on fait pour en finir avec, si on n'a pas fini avec ces bandes armées?
Je voudrais juste montrer le fait que l'activité économique, c'est aussi une réponse à l'insécurité. Parce que s'il y a des petites unités de production qui se développent non seulement à Goma, mais tout autour, ces unités-là vont essayer d'absorber de plus en plus de jeunes. À côté de la réponse militaire, parce qu'il y a des opérations militaires justement qui sont envisagées dans le cadre de l'état de siège, il y a aussi l'activité économique qui doit suivre pour stabiliser les régions.
Parce alors, on a souvent dit que vous étiez une province abandonnée un peu de Kinshasa. Hein, c'est ce qu'on dit, que vous vous démerdez par vous-même, c'est vrai ou pas? Je vois que vous êtes gêné
pour en parler. On n'a pas ce sentiment.
John, je voudrais d'abord préciser quelque chose qui est particulier pour le moment. La volonté politique. On n'en parle pas beaucoup. Depuis l'accession du président de la République Tshisekedi au pouvoir, on sent qu'il est déterminé. Pour votre information, il vient de passer plus de 2 semaines ici. Des semaines à Goma, sans compter les tours qu'il a fait aussi dans d'autres provinces, quoi, notamment la province de l'Ituri. Quand il y a suffisamment de volonté politique, quand il y a aussi suffisamment de volonté politique qui va au-delà de nos frontières,
aller oui, par... c'est ce que j'allais dire, qu'il peut y avoir de la volonté politique, mais les groupes armés passent d'ici à l'autre côté, et très souvent, ce que j'ai vu arrêter, en tout cas depuis que je suis là, ce que j'ai vu présenter à la presse, sont des groupes étrangers qui viennent d'Ouganda ou qui viennent du Rwanda voisin.
Mais c'est ça justement. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a à peine quelques jours, dans le même hôtel où nous sommes avec vous ici, notre président de la République a reçu son homologue rwandais. Quelques semaines avant,
le président Kagame était ici,
quelques semaines avant, il avait aussi été à la frontière du Grand Nord où il a reçu le président Museveni. C'est cette dynamique-là aussi où on va pratiquement s'impliquer aussi à chercher des solutions pérennes, durables avec les autres leaders.
Mais est-ce que votre malheur n'est pas la richesse du sous-sol ici? Est-ce que le Congo est prêt à partager ses richesses avec les voisins? Parce que c'est ça la solution pour la paix, honorable Mwanza.
Disons, partager les richesses, il faut qu'on définisse bien qu'est-ce qu'on entend par partager les richesses. Je pense que le Congo n'a jamais dit non à travailler avec les pays voisins. Bon, c'est des choses qui ont toujours existé.
Ici, on surtout est qu'il y a un mélange des populations, quand on voit la frontière.
Et puis d'ailleurs, ici, on est dans une zone qu'on avait appelée la zone CPGL, c'est-à-dire la communauté des pays...
Communauté économique.
CPGL, qui regroupait donc l'ex-Zaïre, le Congo, Rwanda, Burundi, avec des projets intégrateurs, notamment aujourd'hui le barrage Ruzizi que nous avons, ne produit pas pour le Congo seulement. C'est un barrage qui est ici au sud du lac et qui produit pour le Burundi, le Rwanda et la RDC. Donc cette dynamique a toujours existé. Le commerce transfrontalier
a
toujours existé.
Il y a eu des moments où c'était quand même assez dur, c'était très tendu.
Exactement. Maintenant, si on parle de partage, mettons à l'avenir, de ses intérêts économiques, mais il reste quand même très important, c'est que l'État congolais est un État qui existe et qui doit quand même faire respecter des lois. Donc tant que les partages économiques se font sur le respect des lois congolaises et bien sûr les lois des autres pays voisins, et il n'y a pas de souci.
Oui, mais là, je ne veux pas qu'on ait de langue de bois.
C'est l'égalité qui nous dérange.
Il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est que l'État a été absent ici. Depuis Mobutu, depuis un certain temps.
Depuis 1996, on a connu effectivement un vacuum politique qui a fait qu'il y ait une immixtion des groupes armés dans toute la partie orientale. Peut-être avec beaucoup plus, comme on dit, d'atrocités dans le nord Kivu et le sud Kivu. Cela, c'est une réalité. Je reviens à la fameuse question des ressources naturelles. Je vous donne quelques exemples. Nous avons un lac commun que nous partageons avec le Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, exploiter les gaz naturels ensemble pour produire de l'énergie, pour développer nos villes voisines? Ça, c'est un exemple. Pour votre information, récemment aussi, le président a signé quand même quelques protocoles d'accord sous son leadership avec son collègue rwandais. Il y a moyen de collaborer. Ce qui est important, c'est bien négocier pour que ce soit un processus gagnant-gagnant. Nous avons à avoir de nos voisins rwandais immédiats, et les autres aussi, même l'Angola, même l'Ouganda. Il faut que ça soit juste un processus qui soit, comme on dit, juste gagnant-gagnant.
Oui.
Par contre, je peux pas dire quoi. Je pense que peut-être dans votre question, il y avait une sous-question qui est connue de tous ici. Ce qu'on déplore ici, c'est l'exploitation illégale des ressources. Et c'est vrai que l'Est du Congo aussi, et je ne parle pas simplement du Nord Kivu, je parle du Ituri, Tanganyika, aussi nous vivons quand même dans une région où on a une pression démographique, parce que bon, certains...
Très forte.
Très forte. Et c'est pas simplement à l'intérieur des provinces, disons, que j'ai citées, même parfois des pays voisins, des migrations qui viennent vers la RDC. Alors c'est en fait cette même question de la terre, des ressources naturelles, qui doit être conjointement gérée, je dirais, par tous les pays. Parce que bon, finalement, si elle devient cause d'insécurité, c'est pas un modèle de développement à long terme. Donc oui, ces questions-là sont essentielles. Mais je pense que ce qu'on essaie maintenant de traiter ici, comme on parlait justement de l'État et de ses responsabilités, c'est qu'il faut trouver maintenant, je dirais, un mode opératoire avec les pays voisins où tous ces échanges, ces migrations se font de manière ordonnée et qu'elles ne finissent pas par l'insécurité qui est causée notamment par l'exploitation illégale des ressources naturelles et parfois ce qu'on cite aussi comme occupation des terres sans suivre les procédures normales.
Occupation des terres, insécurité, mais également ressources minières. Autant de questions auxquelles la région fait face avec une remarquable résilience des populations. On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche avec quelques chefs d'entreprise, quelques leaders qui continuent de croire et de faire vivre ce Nord Kivu. À très vite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Des écoles de référence, des industries de transformation, de vastes plantations et même des ranches avec du bétail. Même si la province semble avoir été longtemps abandonnée du pouvoir central, même si elle est, c'est vrai, trop souvent sous la menace de bandes armées, avec en plus celle du volcan Nyiragongo qui en 20 ans est entré deux fois en éruption, dévastant une bonne partie de la ville, le Nord Kivu montre une extraordinaire capacité de résilience qui mérite, malgré les drames, d'être évoquée. Comme le phénix, elle semble à chaque fois renaître de ses cendres. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie des débats africains qui est ce dimanche à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Avec sur ce plateau, une fois n'est pas coutume, quelques-uns des leaders qui construisent, qui essaient de développer économiquement cette région. De rompre avec le pessimisme ambiant. D'abord, Madame Mwanza Mwamba Yvette, présidente du comité professionnel des miniers au sein de la FEC du Nord Kivu. La FEC étant la Fédération des entreprises du Congo. Notre second invité est Monsieur Mwanza Amisi Singoma, directeur général du groupe Chenimed, qui est dans l'agro-industrie, la distribution, l'énergie et bien d'autres secteurs. Monsieur Mwanza Singoma est également député national du Nyiragongo. Notre troisième invité est Monsieur John Kanyoni Sana, président du conseil d'administration de Metachem dans les mines, DG de Tembo Power et administrateur de Trade Power qui opère dans l'énergie. Voilà pour notre plateau. J'ai envie qu'on ne fasse pas de langue de bois, hein, puisque vous n'êtes pas connus pour faire la langue de bois tous les trois qui êtes sur ce plateau. Peut-on dire aujourd'hui que la question avec le Rwanda voisin, la question de tension avec le Rwanda voisin est résolue aujourd'hui parce que la paix, le retour au développement passe par là,
bon, Madame Mwanza. Je voudrais dire que c'est vrai qu'avec l'actuel président, les relations sont de plus en plus cordiales. Mais la question de la paix en RDC, elle est complexe. Donc il ne faut pas l'aborder juste sur le plan diplomatique. Il y a d'autres questions sous-jacentes. Par exemple, la question aussi de la pression démographique, c'est une question cruciale qu'il faut savoir gérer avec rationalité et parcimonie. Et même le mouvement des populations aussi. Et quand on parle de l'exploitation illégale, les chefs d'État de la région avaient convenu de mettre en place les 6 outils de la certification de CIRGL parce que il y a certains minéraux qui sont exploités dans la partie est et même dans la région, qui ont été désignés comme minéraux des conflits. Et pour essayer de régler cette affaire, il fallait mettre un certain nombre d'exigences pour qu'on puisse couper un peu le lien entre l'exploitation illégale et le financement des groupes armés. Donc il y a des lots de minéraux qui ne peuvent pas accéder au commerce international.
Il y a des minéraux sales qui ne peuvent pas être vendus sur le marché.
Oui, sur le marché international.
Mais au-delà, ils arrivent quand même à contourner.
Oui, justement, on peut pas. Le risque zéro n'existe pas. Mais il y a quand même. Il faut capitaliser les efforts. Il faut d'abord capitaliser cet instrument-là parce qu'il y a un cadre. Il y a un cadre. La CIRG, donc la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, où les chefs d'État se retrouvent pour parler de ces questions. Et ce cadre-là a permis d'abord de diminuer la belligérance entre les États, parce qu'avant 2003, on était dans une situation de belligérance avec certains
avec
pays
les États.
Déjà, ça, c'est une... Oui. Il faut capitaliser ces cadres-là et continuer à dialoguer en interne, parce qu'on ne peut pas aussi parler juste de ressources naturelles pour résoudre la question de...
Justement, ici on dit ressources naturelles en permanence, finalement, c'est ce qui a porté les soucis. Est-ce que la particularité, finalement, de Goma n'est pas aussi de commencer à regarder autre chose que les ressources naturelles, c'est-à-dire on est allé dans les montagnes, là-haut, hein, du Massissi, on a vu que les gens, ça donne un peu plus à l'agriculture, on en parle moins. Bien sûr qu'ils sont menacés par les groupes armés, mais est-ce que c'est pas une des clés? John Cannoni.
Je pense oui, mais je voudrais revenir à la question que vous avez posée par rapport à nos relations avec les Rwandais. Moi, je vais aussi être franc avec vous.
Absolument.
Depuis que le président de la République est là, notre président, Tshisekedi, en moins de 3 ans de son mandat, il a assaini les relations avec les Rwandais de manière exceptionnelle, sur le plan politique, sur le plan économique, une volonté de collaborer avec Rwanda sur plusieurs projets. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et nous pensons que c'est là qu'il faut, il faut voir. Il faut
travailler.
C'est sincère.
Parce que pendant longtemps,
c'est sincère.
Le président en face disait, tant qu'il y aura les anciens adversaires à la frontière, lui...
Je vous donne juste une illustration. Le président Kagame était ici. Le plus loin qu'il soit allé à Goma, c'était à l'hôtel Iouci qui est à 200 mètres de la frontière. Il est allé jusque dans les territoires de Nyiragongo, où l'honorable Mwanza a été élu. Il a passé toute une journée ici. Il est rentré dans la ville frontière de Gisenyi pratiquement à 20h. Ça vous montre quand même qu'il y a une volonté politique des deux côtés. Et cette volonté politique, j'y insiste beaucoup, et n'est pas à relativiser. Elle est importante pour consolider nos relations, pour avoir de bons rapports
avec le Rwanda. Donc on peut y croire, alors.
J'y crois fondamentalement. Personnellement, j'y crois.
On aura moins de... Si le président Tshisekedi actuellement est président d'exercice de l'Union africaine, et je pense que, en tout cas, bon, si je ne me trompe pas, il nous a toujours montré, en tout cas dans ses démarches, un peu cet esprit panafricaniste qui l'anime. Alors bon, je ne pense pas que le panafricanisme va s'arrêter à simplement la relation RDC-Rwanda. Donc bien sûr, il souhaite que leur relation se soit améliorée. Et je pense même dans un message qu'il a fait il y a quelques jours, il a bien cité qu'effectivement, il était bien conscient qu'il y avait eu des problèmes. Et qu'il fallait maintenant penser à un nouvel avenir de relations entre la RDC et le Rwanda. Bon, je ne dis pas que ceci efface tous les problèmes, mais je pense que la dynamique que le chef de l'État est en train de mettre en place est quand même une voie pour des relations, je dirais, apaisées entre les deux pays. Et pour nous, finalement, qui voulons la paix dans la sous-région, on ne peut que l'encourager et l'accompagner dans cette démarche.
Alors pour revenir à la question que vous aviez posée par rapport aux mines, nous sommes d'abord une province qui a une vocation agricole, une vocation aussi agro-industrielle, comme par exemple l'honorable Mwanza par rapport à ce qu'il est en train de faire, et pastorale. Nous pensons pour nous, on est très convaincus. Moi-même, je suis entrepreneur dans les mines. Les mines sont épuisables. Nos terres ne le sont pas. Nous devons investir impérativement dans des secteurs qui sont pérennes. Je pense à l'agriculture, je pense à l'élevage, je pense au tourisme. On a un potentiel. Est-ce que vous savez, par exemple, que les plus grands parcs d'Afrique, les tout premiers, c'était le parc de Virunga, qui est à 75 km d'ici. Voilà des secteurs où on doit impérativement investir.
Et il manque d'infrastructures pour y arriver.
Là, c'est la grande question. Et quand on parle d'infrastructures, on parle des routes, on parle surtout aussi d'énergie. Nous pensons qu'il faut effectivement y accorder une attention particulière.
C'est assez spécial comme région, parce qu'en même temps que vous êtes frappé par tous ces mots, on se rend compte que ça a peut-être développé chez vous le sens de l'entrepreneuriat, puisque c'est l'une des rares régions en Afrique où l'énergie, une bonne partie de l'énergie, est gérée par les privés. Comment ça s'explique? Et est-ce que ce modèle peut être repiqué sur l'ensemble du pays et pourquoi pas le continent?
Alors je vous explique rapidement, parce que bon, c'est un peu l'historique de cette dynamique justement de la ville de Goma. C'est que, en fait, on a la Fédération sur le plus du Congo, la FEC, qui au début, je pense, il y a 10 ans, donc les chefs d'entreprise, etc., on s'est tous mis autour d'une table et on s'est dit rêvons d'un Nord Kivu différent et d'un Goma différent pour le secteur privé. Alors ça a commencé comme une idée. Et puis ensuite, voilà, on est passé dans ces élections, comme on dit, de la Chambre de commerce, où on a créé une équipe. Et dès là, l'entendement était, nous allons fédérer nos efforts ensemble pour commencer à faire des projets qui vont faire évoluer la ville. Alors le premier projet phare, c'était pas l'électricité. Vous avez, circulé dans Goma. C'est la voirie urbaine. C'est-à-dire aujourd'hui, Goma a été reconstruit dans sa voirie urbaine par une initiative privée. Et ce qui est très impressionnant dans cette petite initiative-là, c'est qu'il y a les routes bitumées, c'est vrai principal, mais les routes, je dirais, annexes ou secondaires, sont faites avec de la pierre de lave. Donc on taille la pierre de lave. Voilà,
ici, ouais.
Très exploité. Et c'est très joli. C'est des routes en pavé. Et puis ensuite, est venue cette loi de la libéralisation du secteur de l'électricité en 2014. Et à partir de là, comme il y a cet esprit innovant qui existe ici, ben on a décidé de se lancer dans cette nouvelle entreprise de distribution d'électricité.
Vous distribuez l'électricité aux populations ou aux entreprises ?
Population et entreprises. Et aujourd'hui, je dirais que la société dont je suis PCA est pratiquement le deuxième fournisseur d'électricité dans la ville de Goma, juste après la SNEL, historiquement.
Mmh. Et bon, la SNEL étant l'entreprise nationale.
Mmh. Mais on estime que dans une année ou deux ans, Socodé distribuera peut-être plus que la SNEL. Pour vous donner la cartographie maintenant au niveau du Nord Kivu, on est pratiquement à 6 opérateurs ici à Goma. Disons, je dirais 4 opérateurs hydro, 2 opérateurs solaires, dont SNEL inclus, bien sûr, pour le solaire. Et du côté de Beni, on a aussi des opérateurs, qui sont là. Et bien sûr, l'opérateur phare, je dirais, un peu dans la province, c'est aussi Virunga, Énergie. Donc, vous avez des opérateurs privés dans des villes différentes de Goma, pas simplement deux opérateurs, mais six. C'est un peu ce dynamisme.
Je pense que vous aussi, John Canoni, vous êtes dans l'énergie également.
Oui, monsieur Foucault. Comme vous le savez, je suis vice-président de la Chambre des mines. Ma grande frustration jusqu'à aujourd'hui a été que nous, comme entrepreneurs congolais, on n'est pas vraiment joué un rôle déterminant dans nos mines. Cette tendance à nous ramener à la sous-traitance, elle est même, elle nous insulte. C'est pour ça que nous nous sommes dit, les enjeux de demain par rapport à notre pays, c'est l'énergie, nos terres et l'eau. On a commencé un projet à Kinshasa déjà, où nous faisons pratiquement comme ce que l'honorable Mwanza et ses collègues font, à travers une de nos entreprises qui s'appelle Trade Power. Nous sommes en train d'éjecter une bonne partie de l'énergie dans la ville de Kinshasa, et on a un protocole avec la SNEL qui donne la même énergie à nos entreprises minières. Nous développons d'autres projets au niveau de la province du Katanga, des gros projets. Nous avons notre projet qui est celui de Tembo Power à 100 MW. Nous avons un autre projet d'un autre compatriote qui s'appelle M. Eric Monga, qui est en train de développer un projet de 150 MW, et un autre Yves Kabongo, qui va d'ailleurs les développer sur les rives de Kinsuka, de Kinshasa, 600 MW. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de le faire? Nous nous sommes dit, il est important que nous aussi, nous puissions rêver d'être de vrais capitaines d'industrie qui vont transformer les Congos de demain.
Mais pour que vous deveniez des vrais capitaines d'industrie, il faut qu'on vienne investir ici. Il faut que les gens aient confiance en la région. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne voient plus Goma simplement comme une zone à risque?
Justement, il faut améliorer la communication. Il faut publier, il faut parler de ce qui se fait de bien. Il faut parler de progrès pour donner justement...
Faire et faire savoir.
Oui, oui, faire et faire savoir. Mais je voudrais aussi revenir sur la question des mines. Ici, au Nord Kivu, il y a cet aspect de diversification de l'économie. Vous aviez été dans le Massis hier, vous êtes rendu compte que à côté des mines, il y a de l'élevage, il y a de l'agriculture. Donc, il y a cet aspect diversification qui est déjà inculqué dans les esprits.
C'est vrai. Pourquoi? Que quand on arrive parce là-haut, on voit des vaches, on a l'impression d'être en Suisse.
Et puis après, vous tombez aussi sur une mine. Le problème ici, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer un peu de professionnaliser, comme j'ai dit, parce que l'artisanat, c'est déjà un début de quelque chose quand des Congolais eux-mêmes veulent exploiter leur mine. Mais il faut remplacer, par exemple, la bêche, par une pelle mécanique, par une excavatrice, s'il faut nettoyer, il ne faut pas utiliser le main, il faut passer par une table de secousse. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses dans une dynamique évolutive.
Mais qui doit le faire?
C'est d'abord les privés eux-mêmes, mais aussi de plus en plus les privés. Oui, oui. Parce qu'il y a déjà le potentiel est là, il y a la volonté, et il y a aussi des institutions financières qui sont de plus en plus intéressées. C'est vrai que local aussi, et même international, qui commencent à venir parce qu'ils trouvent qu'il y a des efforts qui sont fournis en termes, par exemple, de respect de certains standards. Et avec ça, les capitaux sont en train de venir parce qu'il y a plus en plus des analyses des risques qui sont faites et qui sont partagées avec les acheteurs. Ils comprennent maintenant que le potentiel est là.
Aujourd'hui, Goma, par exemple, c'est l'aéroport international, reçoit pratiquement 4 vols par semaine ou 5 vols par semaine d'Éthiopienne, qui vient d'Addis, qui vient ici pour emmener... Donc on a un trafic très important à l'aéroport international de Goma. Dans le secteur des banques, ici je parlais de transporteurs, des banques, on a pratiquement toutes les banques du pays qui sont représentées ici. Donc il y a quand même un dynamisme dans le secteur financier. On vient de libéraliser le secteur des assurances, on a aussi des assureurs actuellement présents à Goma. À part des grands noms industriels, on a la plus grande mine, je dirais, d'étain, c'est ça ? Oui, qui est Abyssier. Investissement de plus de centaines de millions de dollars, 200 millions et plus, je pense. Donc il y a quand même des grands noms qui sont ici présents. Et ces banques qui sont ici présentes sont affiliées à des banques internationales. Et tous ceux qui sont venus ici, en tout cas dans la télécommunication, sur Airtel, Vodacom et toutes ces entreprises connues dans le reste de l'Afrique, ont eu des très bons résultats au Nord Kivu. Donc je dirais économiquement ou en matière d'affaires, la destination se justifie. Maintenant, comme vous l'avez dit, comment est-ce que ce modèle économique peut être un peu retravaillé pour ne pas que dépendre du cercle des mines, qui reste stratégique? Je dirais oui, c'est vrai, il faut réfléchir agro-industrie et surtout industrialisation, je dirais, de notre filière agricole. Parce que pour le moment, on est net exportateur de cacao, de café, de quinquina, etc., de papaïne, qu'on envoie vers des pays asiatiques, Europe. Mais il faut maintenant faire la valeur ajoutée localement. Mais ce que, justement, John avait dit ici, l'enjeu pour l'industrialisation du Nord Kivu, et même du reste du pays, c'est l'accès à l'énergie.
L'accès à l'énergie et les infrastructures.
Moi, je voudrais dire quelque chose. Vous avez posé une question qui est fondamentale. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus ignorer les rôles de l'État. J'ai eu le privilège d'accompagner les chefs d'État sur plusieurs missions à caractère économique. Et l'un des grands enjeux que nous avons, nous devons impérativement améliorer notre gouvernance. Nous devons rendre notre régime fiscal plus incitatif. Nous devons sécuriser sur le plan juridique les investissements qu'il y a. Donc, c'est vrai, certes, nous, comme entrepreneurs du Congo, on joue déjà un rôle qui est très important, mais si nous voulons que notre Congo démarre, il soit vraiment le moteur pratiquement des 250 millions de nos neuf voisins que nous avons au niveau de la RDC, on doit avoir une ambition de voir au-delà. Bientôt, là, nous allons accéder au marché des East African Community. On est en train de parler pratiquement des 180 millions des consommateurs. Donc, nous devons impérativement continuer à travailler étroitement avec le gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des réformes qui puissent nous permettre d'être plus attractifs. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants. Le deuxième élément, je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour penser à nos frères du Grand Nord. Goma est une ville, certes, qui est là, mais le dynamisme du Goma, c'est les fruits de toute la province du Nord qui vaut. Nous avons la partie nord de notre pays, de notre province, Beni, Butembo, Lubero, qui est pratiquement, comme on dit, qui avait un dynamisme particulier. Ces gens-là
mais qui est un no man's land.
Oui, mais ces gens-là ont travaillé avec Hong Kong dans les années 80. L'entrepreneuriat qui est là-bas est unique en termes d'agriculture, en termes de commerce, en termes de négoces. Ces gens-là aussi, il faut vraiment qu'on s'implique tous pour voir un peu. Et c'est là que nous saluons un peu cette initiative du président de la République de ramener l'état de siège ici. Nous espérons. Et d'ailleurs, les
statistiques... On a un peu plus de mal. Hein, du côté de Beni, les assassinats, les violences continuent.
Mais si on regarde par rapport à ce que c'était avant que l'état de siège ne soit là et aujourd'hui, il y a quand même une avancée. Il faut qu'on...
C'est un frémissement.
Oui. Il faut qu'on donne autant le temps. L'important, c'est tenir avec cette volonté politique. Et nous, comme opérateurs économiques aussi, y contribuer positivement.
Je vais peut-être justement compléter un peu John ici. Parce que quand le chef de l'État était justement à la frontière ougando-congolaise, avec son homologue, le président Museveni, ils sont venus faire en fait un projet intégrateur, d'ailleurs stratégique pour la province, qui est l'asphaltage de la route Kassindi-Butembo et aussi Bunagana-Goma. Donc si ça se fait, en tout cas, ça va changer la donne en matière d'exportation et importation vers le Nord Kivu, facilité. Et notamment, on a fait le déplacement avec d'autres collègues députés, et on était justement à Kassindi et jusqu'à Beni. Alors qu'est-ce que j'ai constaté? Oui, c'est vrai, la situation sécuritaire à Beni est déplorable. Pratiquement, les villes ou les villages qu'avant on voyait peuplés avec tous ces marchés comme on vend en Afrique, se sont vidés. Et c'est choquant. C'est vrai que ça fait mal.
Et par contre... beaucoup viennent sur...
Certains viennent à Goma.
Sur Goma.
Mais par contre, ce qui m'a étonné, et il faut partager comme cette information, c'est que j'ai eu l'occasion de visiter deux entreprises, notamment une dans le cacao et l'autre dans le bois. Ici, je parle de Enra Beni et puis Esco qui est dans le cacao. Eh bien... C'est pas pour cacher les chiffres, mais c'est des stocks de cacao prêts à l'exportation qui valent des millions de dollars. Donc on a des entreprises très solides dans le cacao, encore dans le territoire de Beni. Malheureusement, comme John l'a dit, le gros problème, ça reste aussi comment est-ce que nous accompagnons ces exportateurs, et il y a des défis actuellement. Maintenant, à l'avenir, on peut revenir sur cette question de dire, oui, c'est vrai, l'état de siège, militairement, a comme objectif de ramener la sécurité, mais c'est vrai que le Nord Kivu ne va pas être sécurisé sans la création d'emplois. Et des filières stratégiques telles que justement le cacao à Beni, le quinquina et tout ça, qui justement encadrent des planteurs et donnent du revenu à ceux souvent qui sont les plus démunis, sont stratégiques pour créer justement un développement, je dirais, pas du haut vers le bas, où quelques-uns s'enrichissent et les restent dans la misère. Ce sont des filières qui peuvent tirer beaucoup de gens. Donc, oui.
Des filières qui créent une croissance inclusive. Justement, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, l'investissement aussi privé, c'est une des réponses à la question de la sécurité, parce que plus on va créer des unités de production au niveau local, ça va prendre de plus en plus de jeunes gens qui étaient peut-être tentés de se faire enrôler dans les groupes armés, et ça va générer la croissance au niveau local. Et si on a cette sommation, une résultante de petits pôles de croissance au niveau des différents territoires, au finish, ça va impacter même l'économie de la province sur le plan macroéconomique.
Je pense qu'on va partir sur cet espoir-là. On va partir sur cet espoir. En tout cas, quand on arrive ici, on est un peu surpris. après avoir écouté ce qu'on a écouté sur les médias, on arrive, on se dit, ah, ça vit quand même, et puis qu'il y a des gens qui entreprennent. Bon courage à vous, en espérant que vous ferez de cette cité quelque chose de beaucoup plus beau et le point de départ de développement de toute la sous-région. Merci à vous, merci madame d'avoir accepté de participer, merci monsieur. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Tout à l'heure sur RFI.